23 Uhr. Du bist überall. Ich weiß es, du bist da. Ist gut versteckt. Die Dusche kalt wie Eis, mein Magen voller Steine.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. On va commencer l'année, d'abord bonne année, très bonne année à tous et à toutes, et plein de projets pour cette année 2026. Et on va commencer l'année en douceur avec de la poésie. Au programme aujourd'hui, une émission spéciale poésie catalane. J'ai eu la chance de rencontrer Michel Pujado, un chanteur-poète. Nous écouterons d'ailleurs Michel Pujado un peu plus tard. Il y aura aussi une poétesse catalane que nous écouterons. Dans cette émission, les chroniques habituelles, mais tournées vers la poésie catalane, histoire de se réchauffer, de commencer l'année avec beaucoup de chaleur. Histoire de la poésie catalane. La littérature catalane est le nom traditionnellement utilisé pour faire référence à la littérature écrite en langue catalane. La tradition littéraire catalane trouve ses débuts au Moyen-Âge et connaît un renouveau romantique au XIXe siècle avec la Renaissance. Alors pardonnez-moi mon espagnol ou mon catalan, ouvrant alors l'émergence de nouveaux courants littéraires comme le mouvement moderniste ou encore le noucentisme, qui en procède. La littérature catalane peut se définir au moins de deux manières, soit celle écrite par des auteurs originaires des pays catalans, principalement en catalan mais aussi en castillan ou en français, soit celle écrite en catalan indépendamment du lieu d'origine de l'auteur. Cependant, comme le remarque Martí de Riquet, il est très aisé de vouloir déterminer et isoler les caractéristiques spécifiques à une littérature, travail dans lequel il est facile d'exceller, mais il existera toujours le risque d'aboutir à des généralisations et des schématisations qui peuvent jusqu'à dénaturer la production littéraire d'un pays ou d'une langue. En effet, le philologue Joaquim Molas insiste sur le caractère anormal de la littérature catalane. Si une littérature normale est celle qui jouit du décor d'un état ou d'une cour propice à son développement, la littérature catalane, elle, ne peut être abordée qu'en prenant en compte la situation subalterne historique de la Catalogne et de la langue catalane. Par exemple, avec la diglossie en défaveur du catalan sous le régime franquiste. Ainsi que l'histoire de ses institutions culturelles, par exemple, sous la dictature de Primo de Rivera, avec la dissolution de la Mancomunità, institution s'étant mobilisée en faveur de la modernisation du catalan. Les temps anciens sont troublés, mais riches. Le royaume wisigoth, de 418 à 720, la conquête musulmane, de 711 à 718, l'Al-Andalus, la Reconquista, les comtés catalans, le marquisat de Gauti, la principauté de Catalogne de 1160 à 1714 et la couronne d'Aragon de 1137 à 1716, les Catalans, habitants des pays catalans, relèvent de nombreuses influences culturelles. Aux îles Baléares, catalans et castillans ont été d'usage équivalent. Parmi les textes conservés les plus anciens en catalan médiéval, il y a le serment de Radulf Oriol, par exemple, les griefs de Guitar Isam, le seigneur de Caboé, les quatre grandes chroniques. Et puis il y a Raymond Lull, le grand écrivain en prose catalane du Moyen-Âge, le premier grand poète dans cette langue, Ozias Marc, de 1400 à 1459, au XVe siècle, tourne le dos à l'époque médiévale et s'engage dans la Renaissance. Après cette période de splendeur du siècle d'or valencien, ou siècle d'or catalan, qui culmine avec Tyran l'eau blanc, publié en 1490, ou Joano Martorell, en 1413, il est décédé en 1468, le catalan comme langue littéraire culte entre dans une longue période de décadence, du XVIe siècle à 1833, en raison de persécutions et d'interdictions politiques des rois espagnols. Elle est souvent désignée alors comme langue limousine. Parmi les grands auteurs du XVIIIe siècle, on note Juan Ramis, de 1746 à 1819. La langue catalane ressurgit avec vigueur durant le second tiers du XIXe siècle. À cette époque se détache particulièrement Jacint Verdaguer, de 1845 à 1902, dont on va reparler, Ángel Guimerá, 1845-1924, Victor Balaguer, de 1824 à 1901, Frédéric Soler et Narcisse Oller, qui s'inscrivent dans les courants du romantisme tardif et du réalisme. À la fin du XIXe siècle arrive le modernisme, dont Juan Maragall est l'une des figures principales en poésie, puis le noucentrisme. Durant le XXe siècle, la littérature catalane se maintient malgré la répression dont la langue catalane est victime sous les dictatures de Primo de Rivera et de Franco. Des écrivains comme Joseph Carner, Juan Salva Papasse, Charles Riba, Salvador Espriu, Juan Oliver, Josep Maria de Sagara, Gabriel Ferrater, Joran Brossa, Jesús Moncada, font partie des auteurs de la langue catalane les plus reconnus de ces dernières décennies. Actuellement, sous l'effet d'une politique linguistique très active du gouvernement autonome de Catalogne, enseignement en catalan et en castillan conjoint, les textes administratifs sont obligatoirement dans le ressort de la généralité, la production de livres en catalan augmente régulièrement chaque année. Néanmoins, certains courants espagnolistes, principalement de droite, s'opposent fermement à l'usage majoritaire du catalan. Dans le même temps, certaines maisons d'édition ou sociétés de production cinématographique barcelonaises privilégient le castillan, le marché catalanophone étant plus réduit et donc moins rentable. De nos jours, la littérature catalane existe également en France, dans le département des Pyrénées-Orientales, de langue et de culture historiquement catalane, grâce à des poètes tels que Jordi Pérez Cerdà et des romanciers comme Juan Luis Luis ou Juan Daniel Bezonov, qui publie à Barcelone et dont l'œuvre est reconnue par la critique. Nous allons être accompagnés aujourd'hui par les chansons de Michel Pujado et notamment par l'album qu'il vient de sortir sur Brassens. Michel Pujado a traduit Brassens en langue catalane.
Tots els ve de nou, ja no veuen l'ou des de dins. I els joves cadells prenen tots els vells per cretins. Quan ja s'han fet grans i amb uns cabells blancs genuïns. Els xerucs ressecs prenen els marrecs per cretins. Jo que sóc al mig del viatge, vull adreçar-los un missatge. El temps no té cap importància quan s'és cretí, s'és cretí. De l'asiló de la infància, quan s'és cretí, s'és cretí. Deixeu la discussió tancada, cretins caducs, cretins debutants, cretins de l'última fornada, cretins de les neus d'abans, cretins de l'última fornada, cretins de les neus d'abans. Cretí naixent, que ets tan innocent com cretí. I has de confessar que prens el papà per cretí. I tu, cretí assenyat, cretí desgastat, vell cretí, que prens el jovent, em sembla evident, per cretí. Mediteu l'imparcial missatge d'un que és el vell mig del viatge. El temps no té cap importància quan s'és cretí, s'és cretí. Prop de l'asiló de la infància, quan s'és cretí, s'és cretí. Deixeu la discussió tancada, cretins caducs, cretins debutants, cretins de l'última fornada, cretins de les neus d'abans, cretins de l'última fornada, cretins de les neus d'abans.
Le mouvement catalan, la Catalogne, une région riche en histoire et en culture, a produit des écrivains de renommée internationale qui ont marqué la littérature mondiale. Les auteurs catalans ont écrit dans diverses langues, y compris le catalan, l'espagnol et même le français, et ont exploré des genres allant de la poésie au roman en passant par l'essai. Explorons quelques-uns des auteurs catalans les plus célèbres et leur contribution significative à la littérature. D'abord, Jacinthe Verdaguer, de 1845 à 1902. Jacinthe Verdaguer, souvent considéré comme le père de la poésie catalane moderne, est une figure emblématique de la Renaixença, le mouvement de renaissance culturelle catalane du XIXe siècle. Il est surtout connu pour son poème épique « L'Atlantida » en 1877 et « Canigo » en 1886. « L'Atlantida » est un poème épique qui raconte la légende de l'Atlantide et la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Verdaguer utilise cette histoire pour explorer les thèmes de la découverte, de l'exploration et de la perte. Le poème a été salué pour sa richesse linguistique et ses descriptions évocatrices. Canigo est une autre œuvre épique qui se concentre sur les Pyrénées et la lutte entre les Maures et les chrétiens au Moyen-Âge. Le poème est également une célébration de la nature et de la beauté des paysages catalans. Cette œuvre a renforcé l'identité culturelle catalane et a contribué à la popularité de Verdaguer en tant que poète national. Mercè Rodoreda, de 1908 à 1983. Mercè Rodoreda est l'une des écrivaines les plus importantes du XXe siècle en Catalogne. Ses œuvres, souvent centrées sur des personnages féminins, explorent des thèmes de l'amour, de la guerre, de l'exil. Son style est marqué par une prose poétique et une profonde humanité. Le Square de Diamants, en 1962, est sans doute l'œuvre la plus célèbre de Rodoreda. Le roman raconte l'histoire de Natalia, surnommée Colometa, une jeune femme qui vit à Barcelone pendant la guerre civile espagnole et l'après-guerre. Le livre est un portrait poignant de la lutte pour la survie et la quête de l'identité dans des temps troublés. Le Jardin au bord de la mer, en 1967, est un autre roman important de Rodoreda. Le narrateur, un jardinier, raconte les vies des propriétaires et des invités d'une villa en bord de mer à travers ses observations. Rodoreda explore les thèmes de l'amour, de la solitude et du passage du temps. Juan Maragall, de 1860 à 1911. Juan Maragall est un autre pilier de la littérature catalane, connu pour ses poèmes lyriques et ses essais. Il a joué un rôle crucial dans le modernisme catalan, un mouvement culturel et artistique qui a cherché à moderniser la culture catalane tout en restant fidèle à ses racines. L'un des poèmes les plus célèbres de Maragall est L'Ode à l'Espagne, en 1898, dans lequel il critique la politique espagnole et appelle à une réconciliation entre l'Espagne et la Catalogne. Ce poème est souvent cité comme un exemple de l'engagement politique de Maragall et de son désir de voir une Espagne unie, mais respectueuse de ses diversités culturelles. Vision et camp, en 1900, est une collection de poèmes qui inclut la ville du paradis, une ode à Barcelone. Maragall y décrit la ville comme un lieu de beauté et d'inspiration, capturant l'esprit du modernisme catalan. Joseph Pla, 1897-1981, est l'un des écrivains les plus prolifiques de la littérature catalane. Il est surtout connu pour ses œuvres en prose, qui incluent des chroniques, des essais, des mémoires. Son style est marqué par une clarté et une précision remarquables, et il est souvent comparé à des auteurs comme Proust et Montaigne.
El meu poble, i no és pretensió, tinc molt mala reputació. Obri el bec quan quedi callat, em miren com un empestat. Tanmateix no faig cap barrabassada, tot fent-la viu-viu, lluny de la gentada. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tothom diu penjaments de mi. Llevat dels muts, és clar que sí. Quan passegen una bandera i una cabra li va al darrere, més m'estimo quedar-me al llit, no és cosa meva aquest brugit. Penso que ningú li faig la punyeta si em nego a escoltar el timbal i la corneta. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, no, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tots m'assenyalen amb el dit, llevat dels mancs de dia i nit. Quan veig un xoriço empaitat per un burgès gras i suat, faig una traveta eficaç i es fot de cap al senyoràs. Tanmateix em sembla que hi ha pitjors bromes que deixar fugir un lladregot de pomes. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tothom se'n vol llençar al damunt, llevat dels coixos i algun difunt. No em cal ser bruixot o endeví per intuir la meva fi. Trobaran una corda barata i me'n faran una corbata. Penso que no vaig contra cap axioma, seguint una ruta que no porta a Roma. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tots em veuran gronxant-me el vent, llevat dels secs, és evident.
Gemma Georgia López, née le 10 juin 1968 à Barcelone, est une professeure d'université, poète et traductrice. Elle est titulaire d'un doctorat en philologie hispanique de l'Université de Barcelone et travaille comme maître de conférence à la faculté de philologie et de communication de cette université. En tant que poète, elle a participé à plusieurs festivals, tables rondes, lectures aux États-Unis, en Slovénie, en Allemagne, en Pologne, en Finlande, en France, au Venezuela, au Chili, en Inde et à Hong Kong. Autant dire qu'elle est, c'est une poétesse internationale. Avec l'ouvrage « IA1 Pays sans la Boira » publié aux éditions Tushita, elle a remporté la catégorie « Essai des prix de la critique valencienne » pour ses réflexions opportunes sur la société d'aujourd'hui. Je vous lis un de ses textes traduits en français. Nous allons l'écouter tout à l'heure dans sa langue natale. Elle se fend et finalement se casse l'assiette qui me contient tout entière, l'assiette où je me trouve chaque soir, l'assiette que je suis moi, l'assiette où je présente ce que l'on peut manger de moi. Il se fend et finalement se casse le mot assiette qui contenait le mot moi, qui contenait le mot toi. Qui contenait le mot toi, éparpillement de lettres, comme si le dictionnaire s'était lui-même brisé. Je sais que je suis morte bien avant de contempler mon corps allongé sur le sol. Qui donc m'a laissé échapper d'entre ses mains comme un plateau de porcelaine glissante? Mourir ainsi comme se brise en mille morceaux une assiette et contempler l'âme brûlante comme la soupe sur les carreaux de faïence qui se taisent. C'est une traduction tiré du recueil libre d'El Minutes, le livre des minutes. Voilà encore un texte qui est issu de ses poèmes. Et alors elle, avec de la farine et de l'eau, elle modelait son corps. Avec de la farine et de la salive, elle concevait, modelait, apprenait qu'avec de la farine et demain, on arrive au secret ductile de la matière. Avec de la farine et ses lèvres, elle modelait l'homme jusqu'à l'élasticité insupportable de la tendresse. Et alors, lentement, elle goûtait son corps, le pain qui était son corps, le pain qui se moulait à la perfection dans les mains comme la lumière sur la terre. On voit que dans sa poésie, la poétesse mêle habilement la matière et les sentiments. Nous allons l'écouter maintenant dans sa langue natale réciter un de ses poèmes.
Pedres, si la veu pogués sortir a les fotografies, com hi surt l'ombra o la tendresa, tot i ser realitats més vulnerables, sentiria un cop més el meu pare explicant-me que abans d'acollir una pedra cal fer-la rodolar amb el peu o amb una branca per espantar els escorpins que s'hi amaguen com punxes seques. Mai no vaig preocupar-me'n, perquè tenir 6 anys era senzill, senzill com morir-se. En tots dos casos no hi havia més secret que l'aire, respirar-lo o no respirar-lo, com si l'ànima fos plena de diminuts alvèols que s'obren i es tanquen. El primer escorpí que vaig veure va ser el llibre de Ciències Naturals, atrapat per sempre entre les pinces severes del temps. De vegades, però, els llibres no expliquen tota la veritat, com si no la sabessin o l'haguessin oblidat camí de la impremta. Aràcnid que té el cos dividit en abdomen i cefalotòrax. Res no hi deia del sol ardent a la llengua, de la por, de l'espiga travessada al coll. Jo no sabia llavors que les paraules són immensos i sabercs que oculten sota les aigües glaçades molt més del que mostren, com la paraula escorpí. I ara, mentre el telèfon sona insistentment, un crit agut de matinada, mentre em llevo, encenc el llum, acosto la mà al seu cos blanc de plàstic que brilla com una pedra al sol, mentre el despenjo i dic «sí», i algú em diu que ets mort. Jo només penso en els escorpins, en allò que volies dir-me quan repeties fer rodar les pedres sisplau, fer rodar les pedres.
Les femelles d'aquella vila, en un zoo ni petit ni gran, contemplaven un bon goril·la enfotent-se del que diran. Amb luxúria cada comare tenia els ulls fixats al lloc que rigorosament la mare no em deixa dir ni molt ni poc. Guaita el goril·la. De sobte la presó ben closa on vivia aquell animal s'obri no sé com, se suposa que va ser un fet accidental. El simi en fugir comentava, avui la perdo, que carat. Com haureu suposat, parlava de la seva virginitat. Guaita el goril·la. El director del zoo cridava, no us quedeu, senyores, aquí, que el goril·la té una gran fava, però no l'ha feta mai servir. Quan les dones s'assabentaren que aquell goril·la era fadrí, ves per on no ho aprofitaren i a tota merda van fugir. Guaita el goril·la. Aquelles que en concupiscència hi clavaven l'esguard golut no van demostrar coherència amb la seva estranya actitud. Que així com i dos fan quatre, el goril·la pot ser un amant superior a l'home en el catre, moltes dones us ho diran. Guaita el goril·la. Tothom amb faldilla o sotana fuig d'aquell goril·la trempat, menys una decrèpita anciana i un jove jutge uniformat. En veure que tothom s'escapa, el quadre humà n'ha accelerat i directe posat la grapa damunt la vella o el magistrat. Guaita el goril·la. Es deia la centenària que el meu cos sigui desitjat fora una cosa extraordinària i un fenomen inesperat. El jutge pensava impassible que algú em prengui per una mona. És completament impossible aviat comprovar que no. Guaita el goril·la. Suposem que d'aquí una estona, com el simi, et calgui triar entre un jutge i una lleiona, quin dels dos voldries violar? Si jo em trobés de forma abrupta entre aquestes dues opcions, fora la vella, sens cap dubte, amb qui buidaria els collons? Guaita el goril·la. Però si el simi no té cap taca, com amant potent i robust, en canvi el pobre no destaca per les neurones ni el bon gust, i en lloc d'optar per la vella, com farien savis i folls, va agafar el jutge per l'orella per endur-se el cap a uns matolls. Guaita el goril·la. El que ara ve és molt delectable, per desgràcia no m'han deixat explicar-ho i és lamentable. Hauríem rigut de bon grat perquè el jutge enmig de l'orgia deia mama i vinc a plorar, com l'home qui el mateix dia havia fet decapitar. Guaita el goril·la.
Les amoureux des bancs publics, originellement Banc Public, est une chanson française écrite et interprétée par Georges Brassens. Elle sort en 45 tours en 1953 et sur le 33 tours Le Vent en février 1954. La chanson serait inspirée du roman Amour en province de Jeanne Ramel-Cals en 1926, dont Georges Brassens a souligné des passages concernant des jardins publics et des amoureux sur les bancs. Si Georges Brassens enregistre Banc Public chez Polydor le 1er octobre 1953, il en aurait entrepris l'ébauche dans un carnet dès 1947. Initialement, Georges Brassens intitule la chanson Banc Public. Dans le même temps, la chanteuse et amie du Sétois, Patachou, l'enregistre sous le titre Les amoureux des bancs publics. Elle sort sur le 33 tours Patachou chante. Patachou chante également cette chanson en 1953, qu'elle enregistre sur le disque Patachou chante Brassens. Adaptation, en 1986, la chanson est adaptée en allemand par Franz Josef Degenhardt sous le titre Junge Paare auf Bänken. En 2011, sort l'album Écho du Monde, sur lequel est présent une adaptation en japonais interprétée par Fubuki Koshi. Nous allons maintenant écouter la reprise de la chanson par Michel Pujadeau, qui est notre chanteur fétiche aujourd'hui.
Qui té els ulls a cal ferrer es pot pensar ben bé que els bancs on seu la gent solament són al carrer pel pòtol i el panxut. I això és una absurditat perquè la veritat a mi em sembla evident.
és qui són per acollir els amors al seu debut. Les parelletes que els bancs públics fan calaix de petons, ignorant que els miren de biaix els vianants honestos. Les parelletes que els bancs públics fan calaix de petons, tot dient-se tòpics que rinclons són ben trempades com llamunt. I s'agafen de la mà, parlant de l'endemà, del color del paper, complir el seu dormitori amb tons plens de dolçor. I si veuen ell fumant i ella potser brodant el seu feliç recer, escollint possibles noms pel seu futur nadó. Les parelletes que els bancs públics fan calaix de petons, ignorant que els miren de viatge els vianants honestos. Les parelletes que els bancs públics fan calaix de petons, tot dient-se tòpics que rinclons són ben trempades com llamón. La família Tudorí, si es troba pel camí una visió semblant, llança esguards inquisidors contra el duet insà. Tanmateix tota la toia, pare, mare, noia, fill, esperit sant, prou voldrien en el fons poder-los imitar. Les parelletes que els bancs públics fan calaix de petons, ignorant que els miren de viatge els vianants honestos. Les parelletes que els bancs públics fan calaix de petons, tot dient-se tòpics que rinclons són ben trempades com llamón. Quan el temps haurà passat, quan s'hagin apagat els somnis i la sang, quan el cel se'ls omplirà amb un núvol fosc i eixut, sols llavors veuran prou clar que fou carrers enllà quan seien en un banc, que van viure el millor tros del seu amor perdut. Les parelletes que els bancs públics fan calaix de petons, ignorant que els miren de viatge els vianants honestos. Les parelletes que els bancs públics fan calaix de petons, tot dient-se tòpics que rinclons són ben trempades com llamón.
J'ai eu la chance de rencontrer Michel Pujadeau en 2025. Je vous laisse écouter cette rencontre enrichissante.
Oui, nous recevons aujourd'hui Michel Pujadeau. Michel Pujadeau, vous me corrigerez si c'est la prononciation n'est pas bonne.
Ça va.
Oui. Chanteur et poète catalan. Il vient de sortir un CD avec 3 disques de reprises des chansons de Georges Brassens. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais Michel Pujadeau, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, si j'ose dire, est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours?
Bien, j'ai fait un peu de tout, mais toujours avec des choses qui ont un rapport avec deux matières primaires, qui sont la musique et les paroles, la musique, ouais, et les mots. Moi, j'ai été professeur pendant une vingtaine d'années de langue et littérature.
De littérature?
Oui, de langue et littérature. J'ai joué chanteur depuis longtemps aussi. J'ai fait mon premier disque il y a 42 ans, je crois. Et puis, parfois, j'ai profité de mon expérience comme professeur et aussi comme chanteur pour faire des propositions à niveau d'université, etc., sur l'histoire de la poésie à travers la chanson, etc. J'écris aussi des romans pour la jeunesse, pour les enfants, j'ai fait des adaptations de textes classiques, j'ai fait un peu de tout, mais toujours c'est ça, c'est la parole et la musique.
Et vous avez enseigné en Espagne?
Oui, en Catalogne. J'ai été professeur, oui, dans un lycée. Depuis que j'ai fini, disons, mes études en 82 et jusqu'à 2002.
2002.
Oui, 20 ans pour moi, ça suffit, c'est bien. Mais je ne voulais pas m'éterniser. Alors j'ai continué à travailler avec des élèves, etc., mais avec des propositions plus personnelles.
Donc vous avez commencé par l'enseignement.
Par l'enseignement et par la chanson, parce que quand j'ai commencé justement à enseigner, la même année où j'ai commencé à faire... À travailler comme professeur, c'est l'année où j'ai enregistré mon premier disque.
D'accord.
Donc c'est peut-être...
Donc vous avez fait les choses parallèlement.
Oui, j'ai travaillé de façon parallèle.
Mais vous aviez déjà ce goût pour la musique?
Oui, oui, parce que j'ai commencé à écrire des chansons depuis que j'avais 14 et 15 ans. J'ai commencé à me produire en faisant des premières parties avec des chanteurs catalans quand j'avais 16 ans.
Donc, pour situer, c'est dans quelle région? C'est la Catalogne? C'est quelle grande ville à peu près pour situer?
Oui, pour situer, c'est là où on parle la langue catalane, c'est qu'on considère la Catalogne nord, la Catalogne sud, mais aussi les pays valenciens. Donc, au sud, Valencia, Castelló, Alacant, et puis les îles Balears.
D'accord.
Et Mallorca, Eivissa, Menorca, ce sont les pays catalans, les pays de langue catalane, où il y a donc, des chanteurs qui chantent en catalan, des poètes et des romanciers qui écrivent en catalan, etc.
Et vous avez commencé à enseigner dans quelle ville en particulier?
À côté de Barcelone. Moi, j'habite
à côté de Barcelone.
Une ville qui s'appelle Terrassa, qui est une grande ville de plus de 200 000 habitants et qui est à 30 km de Barcelone. C'est là où j'habite depuis presque toujours.
D'accord.
Et c'est là où j'ai commencé à travailler comme professeur.
D'accord. Mais qu'est-ce qui vous attirait le plus? C'est les mots ou la musique au départ?
Pour moi,
les deux en même temps?
La chanson, c'est une sorte de, comment dirais-je, c'est une sorte de... ça s'appelle en français tricycle.
Ouais.
Oui, c'est une sorte de tricycle. Il y a trois roues, il y a le mot, il y a la musique et il y a l'interprétation. Et quand une des trois roues ne tourne pas, c'est le désastre absolu. Pour moi, la chanson, c'est un tout. Mais pour moi, évidemment, les mots ont une importance spéciale. Des mots qui doivent être, disons, travaillés aussi en fonction de la voix, en fonction de l'oralité.
Ouais.
Pas toutes, parfois, évidemment, la chanson a beaucoup aidé à la diffusion de la poésie. En fait, la poésie et la chanson sont, à l'origine, c'était la même chose.
À l'origine, c'était les troubadours.
Et à niveau de langue romane, c'est évidemment les troubadours. Et les troubadours, c'est justement l'Occitanie et la Catalogne, parce que la Catalogne et l'Occitanie étaient unies politiquement jusqu'au XIIIe siècle, quand la France du Nord, avec l'excuse de l'hérésie cathare, ont envahi l'Occitanie. Le roi catalan a aidé les Occitans, mais il est mort à la bataille de Muret. Et là, l'idée d'un État occitano-catalan a disparu. C'est à partir de ce moment que la Catalogne a commencé à descendre et à conquérir les territoires du Sud et les Baléares aussi. Alors, les premiers poètes en Europe qui écrivent dans une langue qui n'est pas le latin sont justement les troubadours oui, catalans et occitans. Et même si au XIIIe siècle, il y a déjà le catalan est une langue, disons, de la prose, par influence des troubadours occitans, on fait la poésie en catalan aussi en occitan. C'est une langue artificielle, mais que pendant le Moyen-Âge était très proche de l'occitan. Mais c'est l'origine, c'est ça. Ce sont des poèmes qui étaient faits pour être chantés, pas pour être lus. Et pendant longtemps, la littérature, c'est ça. C'est une littérature basiquement orale. Et la poésie aussi,
oui,
d'une façon spéciale.
Oui, je fais une émission sur la poésie. On voit très bien, effectivement, je fais une petite histoire de la poésie. Et on voit très bien, en tout cas pour la poésie française, mais je pense qu'il y a une similitude entre la poésie française et la poésie espagnole. Et tout a commencé par des chants, effectivement, et puis petit à petit les poèmes.
Oui, à partir, mais c'est à partir de Gutenberg, c'est à partir de l'imprimerie qu'on a commencé à lire pour soi, à lire, disons, les poèmes assis dans une chaise avec un livre devant. Mais avant, c'était pas ça. On écrivait pour chanter.
Oui, tout à fait.
Et on écrivait pour dire. Quand on parlait des poésies épiques, les histoires, les batailles, ça, c'était dit. C'était les jouglars, c'était en français les jongleurs, qui disaient des poèmes, des longs poèmes qu'ils apprenaient par cœur. Et puis la poésie lyrique, comme le nom indique, était chantée toujours. Parfois avec des musiques originelles, par exemple la chanson des troubadours, la chanson d'amour, d'amour courtois, était toujours, exigeait toujours une musique originelle, mais après il y avait d'autres types de poèmes, par exemple les Cervantes, je ne sais pas si en français on appelle comme ça les Cervantesos,
Cervantes.
C'était les poèmes de la colère, pour insulter les ennemis, etc. Et là, on acceptait de mettre une musique connue parce que comme ça, c'était plus facile d'apprendre la chanson pour les gens qui devaient la transmettre, parce que la victime devait entendre la chanson qui le mettait à mal. Non, mais c'est toute une histoire. Le monde de Trovado est très, très amusant.
Et si vous deviez faire une comparaison entre la poésie française et la poésie espagnole, par exemple, il y a quand même, on voit très bien.
La poésie, la littérature, c'est toujours une littérature des langues. Ouais. Donc Ionesco était roman, mais il formait part de la littérature française. Donc quand nous parlons de la littérature catalane, ce n'est pas la littérature espagnole. La littérature espagnole, c'est celle écrite en castillan. Ouais. La littérature catalane, c'est celle écrite en catalan. Donc, on a des contacts, évidemment, mais c'est une autre chose.
Alors, c'est important de préciser.
Oui, évidemment, ça n'a rien à voir.
Poésie catalane.
Même la langue catalane est plus proche du français que du castillan. Ouais. Parce que la langue catalane, c'est une langue, disons, gallo-romaine, mais les castillan et les portugais, ce sont des langues ibéro-romaines. Et justement, au niveau lexique, les Français et les Catalans sont beaucoup plus proches. Même l'occitan, c'est, on pourrait dire, une sorte de pont entre le catalan et le français.
D'accord.
Alors, la poésie catalane a comme origine, c'est ça, les troubadours. Et ça n'arrive pas, évidemment, dans la poésie castillane, qui n'ont pas de troubadours.
Oui.
Ça commence d'une façon différente. Et la poésie française, je crois que quand les Français du Nord, le pays d'Oïle, dévorent le pays d'Oc, alors il doit, le veuille ou non, assimiler aussi la littérature occitane. Et la France francise la littérature de troubadour, mais la littérature de troubadour est aussi à l'origine des trouvères français du Nord.
Tout à fait.
Et les troubadours catalans et occitans ont toujours, à partir du XIe siècle, un rapport très, très, très étroit.
C'est très intéressant parce que je fais dans mon émission l'histoire de la poésie. Et là, on a résumé en quelques minutes la petite histoire de la poésie, effectivement. Mais donc, vous avez arrêté d'enseigner? Et puis, non ?
Oui, mais pas de travailler au niveau pédagogique, etc.
Oui.
C'est ce que je ne fais plus, c'est d'aller tous les jours faire mon cours.
D'accord.
Mais j'ai fait du travail d'adaptation des classiques pour les jeunes. J'ai fait des séances pour des universitaires, mais aussi pour des lycéens, comme je disais tout à l'heure, sur la poésie, sur des romans aussi. J'ai fait des séances littéraires. Donc, j'ai travaillé aussi encore et toujours avec un niveau d'enseignement, mais pas de façon professionnelle, comme un professeur qui, tous les jours, se lève et va voir les fauves qui sont devant lui.
D'accord. Et donc, vous accompagnez en chantant. Et est-ce que... Alors là, je vous pose la question, mais je connais un peu la réponse, mais est-ce que vous vous considérez comme poète ou comme chanteur?
Oh, ça, c'est toujours les autres...
Là, on a vu que c'est la même chose, finalement.
Oui, c'est toujours les autres qui décident. Ouais. C'est un peu comme la chanson française, Brassens, pour moi, c'était un poète, mais il s'est défendu d'être un poète.
Oui.
Par contre, Ferré revendiquait toujours sa qualité de poète. Je crois que la chanson française et la chanson catalane, qui ont, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le fond...
Ah, voilà, nous avons été coupés. Je m'excuse un peu pour la qualité du son parce que c'est une interview enregistrée et donc on entend des sonneries régulièrement. Voilà, je voudrais vous lire maintenant des textes que Michel Pujadeau gentiment m'a transmis en me traduisant les textes. Ce sont des textes personnels. On vous dit sur quoi cracher, on vous dit ce qui est désirable, qui est bon et qui est mauvais, quel est le mensonge et quelle est la vérité. Restez à l'écoute, passons à la publicité. Vous ne voulez pas être des losers, alors achetez une nouvelle voiture, le dernier portable. Ne me dites pas que vous ne désirez pas un appartement nouveau, grand comme une cage à lapins. Vous pouvez laisser l'hypothèque en héritage à vos enfants, et si vous ne pouvez pas le payer, nous serons vos thérapeutes. Nous garderons l'appartement et vous garderez la dette. Mondialisation, bien sûr, mais à notre façon. Les films, la musique, vous consommez tous la même chose. Et vous êtes convaincus que vous voulez ce que nous vous vendons. Nous créons les besoins et puis nous les satisfaisons. Ce n'est pas l'anglais, c'est l'argent, la vraie langue internationale. La banque gagne. Il y a des soins de santé pour les pauvres, il y a des soins de santé pour les riches. On ne fabrique un remède que s'il doit donner des bénéfices. Même une pandémie est utile s'il s'agit de gagner plus. Nous disons si une guerre est juste, nous décidons laquelle ne l'est pas, et nous vendons des armes à tous les camps, et nous réprimons tout tumulte. Les droits de l'homme sont très utiles pour nous torcher le cul. Une nouvelle féodalité approche, l'avenir n'est plus ce qu'il était, et vous ne bougez pas le petit doigt, la révolte une chimère. Vous êtes des vassaux qui obéissent et envient le Seigneur. Vous êtes des agneaux qui vont tout seuls à l'abattoir. Vous êtes des noirs, des croches, et nous sommes la blanche. La banque gagne, alors que la moitié du monde agonise et l'autre moitié réprime, tandis que les mafias règnent, tandis que le climat se détruit. Nous vous avons convaincus, et c'est aussi drôle que terrible, que ce monde de misérables est le seul possible aujourd'hui, et nous vous divertissons en agitant les couleurs des drapeaux, tandis que notre capitale franchit toutes les frontières, quand, à force de traire la planète, nous en aurons fait un triste chiffon, quand cette vieille terre ira enfin se faire foutre, nous aurons des billets réservés pour d'autres systèmes solaires, tout comme hier nous avions les abris nucléaires. C'est à nous le point d'appui et le contrôle du levier. Celui que nous voulons est laissé pour compte, celui que nous voulons saute la clôture et celui que nous voulons trébuche. Bref, la banque gagne.
Per deslliurar el pensament, per fer-li que vol calent i riure's de les fronteres. Per fecundar amb cada vers, dut pel mestral o pel cers, un nou possible univers. Per compartir solituds i aprendre a dreçar els escuts quan venen temps de barbària. Per murmurar o alçar el crit, cremar-li mares de nit i arrencar el cor de l'oblit. Per viure l'ara i aquí, i també el demà al matí i el segle 44. Per si convé perdre el nord i navegar un del port, fent pa mig i pa la mort.
De foc i de vellut, vull les paraules. De foc i de vellut, vull les cançons. De foc i de vellut,
la melodia calça el vol.
De foc i de vellut,
la veu que escampa joia i dol.
Per mossegar, caronar i si cal polinitzar els mots que geuen els llibres. Per mantenir el desig viu i allà on hi ha cendra el caliu d'una roent cicatriu. Perquè l'horror tanqui el bec per donar imatges al cec i al cènic a les certeses. Per inventar un nou color i per plantar una llavor que no germini amb la por. Per agafar-te les mans i acompanyar-te uns instants o potser tota la vida. Per sense moure't del llit fer via en un tren de nit a tu fins a l'infinit.
De foc i de vellut,
vull les paraules.
De foc i de vellut,
vull les cançons.
Per esquitxar amb foc el gris de la presó i d'un somris els qui pateixen l'exili. Per la tendresa, el combat, la dansa i també l'esclat violent de l'inesperat. Per oferir el joc pel xai perquè no s'esborrin mai els somnis de la infantesa. Per jugar daus amb l'atzar, en ple desert trobar un mar i enllumenar com un far. Per fer petits els gegants i mirar de posar uns grans de sorra en certs engranatges. Perquè la imaginació mai no demani perdó al poder ni a la raó.
De foc i de vellut,
vull les paraules.
De foc i de vellut,
vull les cançons.
Salvador, de foc i de vellut,
la veu que embriaga com l'alcohol.
Voilà, c'était un extrait du dernier album de Michel Pujadeau. De Foki de Velut est une chanson, l'une des chansons principales de cet album. Nous allons poursuivre l'écoute de cet album, de toute façon, si nous avons le temps. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Juste une petite pensée pour ce qui s'est passé aux États-Unis et puis pour René Michel Good, qui était poétesse, on l'a appris lors de son assassinat. Violence et poésie ne font pas bon ménage. Il est dommage que l'on parle de poésie aux États-Unis uniquement à l'occasion d'un assassinat. Nous ferons sans doute une émission sur les poètes américains prochainement. Vous êtes toujours sur 89.4. Je continue la lecture des textes de Michel Pujadeau, qu'il a bien voulu me traduire. L'enfer et la gloire, je suis fils de l'Europe judéo-chrétienne, être libre l'effraie et elle adore ceux qui commandent. Tu lui dis hédonisme et elle fait une grimace de dégoût et elle se vautre toujours dans la culpabilité et la punition. Eh bien, j'ai décidé d'en assumer l'héritage et j'ai voulu l'amener à l'excellence. Si nous venons au monde pour pleurer et souffrir, il vaut mieux faire ça comme il faut. Regardez-moi bien. Quand je vais chez le dentiste, je ne veux pas d'anesthésie. Si j'ai de doux souvenirs, j'ai recours à l'amnésie. Chaque fois que je me rase, j'essaie de me couper. Si Alba me fait bander, je baise avec Carme. J'aime aller dans le métro pour être froissé par des gens qui ne se douchent pas et qui puent la sueur. Mais je préfère les trains de banlieue. Il y a toujours des accidents, des retards, des pannes. Quand je vais à une manifestation, je ne prends jamais les jambes à mon cou, de peur de manquer un bon coup de matraque. Et j'avoue que depuis que je me souviens, quand je suis en enfer, je me sens dans la gloire. Quand je me porte bien, je file chez le médecin. Je suis un collectionneur de pierres au foie. Si j'ai un poker d'as, je cache les cartes. Je m'accroupis souvent pour profiter du lumbago. Je ne bois de l'alcool que pour nourrir la cirrhose. Je n'embrasse avec la langue que celle qui a de l'halitose. Et j'aime être vassal d'un État qui m'insulte, me vole, me maltraite, fasciste et inculte. Je ne sais pas si je préfère une paire de claques ou un bon coup de pied dans les couilles. Mais en tout cas, messieurs, depuis que je me souviens, quand je suis en enfer, je me sens dans la gloire. Mais elle a atterri dans ma vie, Gloria, une fille très patiente, qui dit mémé, qui est belle et très tendre. Et voici mon monde qui vacille et qui devient cendre. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Un jour, tu n'y penses pas et soudain, tu vois tomber tes défenses. Je voudrais fuir, mais je n'en suis pas capable. Et je me regarde dans le miroir et me dis « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je la veux et je la déteste. Elle me répugne, elle me plaît. J'ai l'impression d'avoir fait une bonne gaffe. Et au milieu de l'été et au cœur de l'hiver, quand je suis avec Gloria, je me sens en enfer.
Mercè, no van ser mil i una, que foren només cinc les nits. Cinc nits va espiar-nos la lluna quan jo acaronava els teus pits. Cinc nits escrivint una història on cada segon pot ser etern. Ens van ser prou perquè la memòria cuinés uns records per l'hivern.
Comment? Oui, oui.
Ens trobem per compartir.
C'est que fem jeudi, là.
Potser uns anys, potser unes hores, però no passem dels de fores, jo de tu, ni tu de mi. Les besades que allargasses, les acabes desgastant.
Estimem,
doncs, okay. Les fogasses meravelles de l'instant. I entonem la greu cançó
de la
nostra intersecció.
Oui, 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 mais c'est bien, c'est bien. Ça a été Ah oui, oui, d'accord.
Christine, ets el sol,
non, non, mais je parlais du quatrième jeudi.
Ah oui, pardon. La cara i la
c'est des fois, il faut ça.
Oui, oui, je sais plus. Sols obrir la boca, el to
puja.
Oui, oui, c'est ça.
I el desacord troba la veu. Plegats no podríem mai viure, però estic segur que d'aquí un temps et recordaré amb un somriure que els anys fan maragdes dels
temps. Oui, oui, oui.
pots mullar un record eixut.
I si j'ai essayé
ou massa humil, l'eixugues.
Si, si, ça a marché, je suis rentré.
El fa salut i li esborra
les arrugues.
A la rosa recordada pots llevar-li.
Si, si, je suis rentré à l'intérieur, mais alors après, ils m'ont dit, je sais pas, pour une expo, ils m'ont laissé passer, mais ils m'ont dit,
c'est,
je suis rentré, je suis rentré, mais
de la nostra intersecció. No sé com et dius, per un dia m'hauré d'embarcar en els teus ulls i sense timó farem via fins que topem contra els esculls. No malgastem la primavera pel fet que vindrà la tardor. El més calent és a l'aigüera, visquem el present sense por. Un present que ara és futur i que haurà de quedar enrere, però que amb un lleu conjur reprendrà un gust de cirera. Que no et venci l'enyorança, res no és per res, no roman. Simplement entra la dansa prescindint del com i el
com.
Neix i mor la breu cançó de la nostra intersecció.
Neix i mor la
breu cançó de la nostra intersecció.
Ah, une musique? D'accord, je vais dire au revoir, je crois. Bon, ça, à ce moment-là, comme j'ai personne, non, je commencerai peut-être un peu plus tôt à ce moment-là.
Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois.
Voilà, c'était Michel Pujadeau que nous écoutons aujourd'hui. On écoute son album. Je vais vous dire au revoir. Très content d'avoir mis un petit peu de poésie catalane et de vous avoir parlé un petit peu aujourd'hui de la poésie catalane. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour une autre émission sur la poésie.
chanterons le temps des cerises et guérosignol et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moka. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. Si vous envolez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous n'en aurez pas pour votre argent, pas pour votre espérance. Arrive que le chansonneur ait plus rien dans les poches, plus une miette de bonheur, plus une simple croche. Arrive que le rimailleur, là de se faire entendre ailleurs, reste dedans sa chambre, le cœur en plein décembre, et que le musicaillon bouffe le bois de ses crayons, déserté par les notes, les yeux remplis de flotte. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air, c'est pas moi qui vous vendrai du vent.